Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
On a compris que vous étiez fan. Bonjour
ah,
Brice.
Ah oui, je suis très fan.
Allez, on va voter en mai. Bonjour Brice. On va voter en mai pour renouveler le Parlement européen, ce qui implique aussi le remplacement de la Commission. Quel bilan peut-on faire de celle qui s'apprête à quitter Bruxelles sur le plan du commerce international, Brice?
Oui, on le sait, la seule vraie dimension de puissance assumée par l'Union européenne, c'est la puissance commerciale. L'UE, et comme l'écrit Liffry dans son bilan des 5 années écoulées depuis le renouvellement du Parlement et de la Commission, multilatéraliste par principe et par intérêt. Elle a été l'un des principaux acteurs et des principaux bénéficiaires de la mondialisation des échanges. C'est dire que les prodromes de guerre douanière lancés par le président américain ne font pas notre affaire. D'autant que, comme l'écrivait lundi Nicolas Bavrèze dans Le Figaro, je cite, « Le grand marché européen est devenu la variable d'ajustement de la guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine. D'un côté, les États-Unis imposent l'extraterritorialité de leurs droits, leurs sanctions commerciales contre l'Iran en particulier, leurs sanctions commerciales et la toute-puissance de l'oligopole technologique des GAFAM. De l'autre, la Chine, elle prend le contrôle non seulement de pans entiers d'activités, mais aussi d'actifs et d'entreprises stratégiques. » Fin de la citation de Nicolas Bavrèze. On a vu en effet ce pays, la Chine, désormais la première puissance industrielle du monde, s'emparer du secteur des panneaux solaires par des moyens assez discutables, inonder certains marchés comme celui de l'acier à prix bradé. La Chine, où l'État joue un rôle déterminant dans le financement des entreprises, ne peut être considérée comme une authentique économie de marché. En outre, cet immense et richissime pays a mis la main ces dernières années sur quelques-uns des fleurons de nos industries de pointe, en particulier dans le domaine de la robotique et des biotechnologies. Du coup, l'UE a introduit, à l'initiative de la Commission, un mécanisme de surveillance des investissements chinois sur son sol afin de protéger certains secteurs stratégiques. Et depuis, le niveau de ces investissements chinois en Europe a fortement baissé. Il est passé, pour tout dire, d'un pic de 37 milliards d'euros en 2016 à 29 milliards en 2017, 17 milliards en 2018. L'opinion, on s'en souvient, a été frappée par le veto mis par le gouvernement allemand à l'acquisition par le chinois Yantai Taihai du fabricant de machines-outils Liefeld Metal Spinning. L'Europe, qui investit elle-même beaucoup dans le reste du monde, n'entend pas se fermer aux investissements chinois, mais faire preuve de vigilance. Et elle a les moyens d'obtenir de ses partenaires, quels qu'ils soient, la réciprocité à tous les niveaux, car, comme on sait, l'union fait la force.
Et puis on le sait, Brice, la Chine entend relier l'Asie orientale à l'Europe occidentale par une nouvelle route de la soie. Mais quelle est la position de l'Union européenne à l'égard de ce projet?
Il ne faut pas se cacher que ce projet pharaonique que vous mentionniez, route de la soie, One Belt, One Road, a des visées stratégiques qui inquiètent en particulier les Français et les Allemands, bien davantage qu'ils ne nous séduisent. Mais la Chine a identifié plusieurs maillons faibles en Europe parmi les pays les plus endettés. Elle a ainsi promis à la Grèce et au Portugal une manne de crédit. Le gouvernement italien, lui aussi, à la recherche désespérée de financement, vient d'annoncer qu'il se joindra au projet de route de la soie. Et on annonce déjà la visite en grande pompe du président chinois Xi Jinping à Rome les 22 et 23 de ce mois. Mais les partenaires de l'Italie tenteront, à la veille même de cette visite, de convaincre ce gouvernement de ne pas se comporter en cheval de Troie. La Chine ne se soucie pas qu'un pays soit capable de rembourser ses emprunts, disait récemment le commissaire Johannes Hahn, qui est commissaire à la politique régionale et à l'intégration, dans une interview au Financial Times. Et s'il ne peut pas payer, ce pays subit des pressions pour que des choses soient transférées. Fin de citation. L'UE est désireuse de signer des traités de libre-échange avec tous les pays du monde. Elle a conclu récemment de tels accords avec le Canada, on s'en souvient, avec le Japon, avec Singapour. Des négociations sont en cours et progressent bien avec le Mercosur, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Tunisie. Mais elles sont plus laborieuses avec l'Indonésie, les Philippines et avec la Birmanie. Elles étaient au point mort avec l'Inde depuis 2013, mais ces négociations avec l'Inde ont été relancées depuis 2017. Mais comme on sait, c'est avec les États-Unis que l'UE rencontre à présent de sérieux problèmes. Donald Trump a bloqué le partenariat transatlantique ou TTIP laborieusement négocié par les Européens avec son prédécesseur. Il a décidé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Il menace les importations de voitures européennes. L'UE a riposté en taxant une série de produits américains pour une valeur de 2,8 milliards. Il semble que l'objectif réellement poursuivi par Washington soit d'embarquer les Européens dans leur guerre commerciale avec Pékin. Or, l'Europe entend bien conserver son autonomie politique et défendre ses propres intérêts. L'Union européenne entend sauver le multilatéralisme, ce qui implique d'empêcher les États-Unis de continuer à bloquer l'OMC comme ils le font.